connais-toi toi-même. Si le bonheur repose sur les sensations plaisantes que l'on éprouve, pour être plus heureux, il nous faut réaménager notre système biochimique. S'il repose sur le sentiment que la vie a du sens, c'est en nous débarrassant de nos illusions que nous serons plus heureux. Y a-t-il une troisième voie? Les deux points de vue énoncés plus haut partent de l'hypothèse que le bonheur est une sorte de sensation subjective, de plaisir ou de sens, et que, pour juger du bonheur des gens, il suffit de leur demander ce qu'ils ressentent. Pour nombre d'entre nous, cela paraît logique, puisque le libéralisme est la religion dominante de notre époque. Le libéralisme sanctifie les sentiments subjectifs des individus au point d'en faire la source suprême de l'autorité. Tout est déterminé par ce que chacun de nous ressent, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est beau ou laid, ce qui devrait être ou ne devrait pas être. La politique libérale se fonde sur l'idée que les électeurs savent à quoi s'en tenir et que nous n'avons pas besoin d'un Big Brother qui vienne nous dire ce qui est bon pour nous. L'économie libérale repose sur l'idée que le client a toujours raison. L'art libéral proclame que la beauté est dans l'œil du spectateur. Quant aux étudiants des écoles et universités libérales, on leur apprend à penser par eux-mêmes. « Just do it !» nous exhortent les publicités. Films d'action, drames, feuilletons à l'eau de rose, romans et rengaines populaires ne cessent de nous le seriner. « Restez fidèles à vous-même, écoutez-vous, suivez votre cœur !» C'est Jean-Jacques Rousseau qui en a donné la formulation la plus classique. « Tout ce que je sens être bon est bon. Tout ce que je sens être mauvais est mauvais. » Les gens élevés depuis leur plus tendre enfance à grand renfort de slogans de ce genre sont enclins à croire que le bonheur est un sentiment subjectif et que chacun est le mieux placé pour savoir s'il est heureux ou misérable. Mais cette vue est le propre du libéralisme. Tout au long de l'histoire, la plupart des religions et des idéologies ont déclaré qu'il existe des étalons objectifs du bien, du beau et de ce qui devrait être. Elles ont regardé d'un œil méfiant les sentiments et préférences de l'homme ordinaire. À l'entrée du temple d'Apollon à Delphes, une inscription accueillait les pèlerins « Connais-toi toi-même ». Sous-entendu, l'homme moyen ignore son vrai moi. De ce fait, probablement ignore-t-il aussi le vrai bonheur. Freud aurait sans doute acquiescé. Tout comme les théologiens chrétiens. Saint Paul et saint Augustin savaient parfaitement que si on les interrogeait, la plupart des gens préféraient coucher que prier Dieu. Cela prouve-t-il que le sexe soit la clé du bonheur? Pas selon saint Paul et saint Augustin. Cela prouve seulement que l'humanité est pécheresse par nature et que les êtres humains se laissent aisément abuser par Satan. D'un point de vue chrétien, l'immense majorité des gens sont plus ou moins dans la même situation que les héroïnomanes. Imaginons un psychologue qui entreprenne d'étudier le bonheur chez les drogués. Il les sonde et observe qu'ils déclarent, tous sans exception, qu'ils ne sont heureux que lorsqu'ils se shootent. Le psychologue aurait-il l'idée de publier un article expliquant que l'héroïne est la clé du bonheur? L'idée qu'il ne faut pas se fier aux sentiments n'est pas l'apanage du christianisme. Du moins, pour ce qui est de la valeur des sentiments, Darwin et Dawkins pourraient trouver un terrain d'entente avec saint Paul et saint Augustin. Selon la théorie du gène égoïste, la sélection naturelle amène les gens, comme les autres organismes, à choisir ce qui est bon pour la reproduction de leur gène, même si cela n'est pas bon pour eux à titre individuel. La plupart des mâles passent leur vie à trimer, s'inquiéter, rivaliser et se battre, plutôt que de jouir d'un bonheur paisible, parce que leur ADN les manipule à ses propres fins égoïstes. Comme Satan, l'ADN se sert de plaisirs fugitifs pour tenter les gens et les mettre en son pouvoir. De ce fait, la plupart des religions et des philosophies ont adopté une approche du bonheur très différente de celle du libéralisme. La position bouddhiste est particulièrement intéressante. Le bouddhisme a en effet attribué à la question du bonheur plus d'importance peut-être qu'aucune autre confession. Depuis 2500 ans, les bouddhistes ont systématiquement étudié l'essence et les causes du bonheur, ce qui explique l'intérêt croissant de la communauté scientifique pour leur philosophie et leurs pratiques de méditation. Le bouddhisme partage les intuitions élémentaires de l'approche biologique du bonheur, à savoir que le bonheur résulte de processus qui se produisent à l'intérieur de son corps, non pas d'événements survenus dans le monde extérieur. Toutefois, partant de la même intuition, le bouddhisme en arrive à des conclusions très différentes. Selon le bouddhisme, la plupart des gens identifient le bonheur à des sentiments plaisants et la souffrance à des sentiments déplaisants. De ce fait, les gens attachent une importance immense à ce qu'ils ressentent et sont avides de connaître toujours plus de plaisir et d'éviter la douleur. Quoi que nous fassions au fil de notre vie, nous gratter la jambe, pianoter la chaise ou livrer des guerres mondiales, nous essayons juste de nous procurer des sensations agréables. Le problème, selon le bouddhisme, c'est que nos sentiments ne sont rien de plus que des vibrations fugitives qui changent à chaque instant, telles les vagues de l'océan. Voici 5 minutes, j'étais joyeux et déterminé, mais ces sentiments ont disparu et je pourrais bien me sentir triste et abattu. Si je veux connaître des sentiments plaisants, il me faut donc être constamment à leur poursuite, tout en chassant ceux qui sont désagréables. Même si j'ai réussi, tout est aussitôt à recommencer sans que je sois jamais récompensé durablement de ma peine. À quoi rime de remporter des prix aussi éphémères ? À quoi bon s'acharner à décrocher une chose qui disparaît presque sitôt apparue ? Selon le bouddhisme, la racine de la souffrance n'est ni le sentiment de peine, ni celui de tristesse, voire d'absence de sens. La véritable racine est plutôt cette poursuite incessante et absurde de sensations éphémères qui nous mettent dans un état permanent de tension, d'agitation et d'insatisfaction. Du fait de cette poursuite, l'esprit n'est jamais satisfait. Quand bien même il éprouve du plaisir, il n'est pas content, parce qu'il a peur qu'il ne dure pas et voudrait tant que cette expérience se prolonge et s'intensifie. Les gens sont libérés de la souffrance non pas quand ils éprouvent tel ou tel plaisir fugitif, mais quand ils comprennent l'impermanence de leurs sensations et cessent de leur courir après. Tel est l'objectif des pratiques de méditation bouddhiste. Qui médite est censé observer de près son esprit et son corps, suivre l'apparition et la disparition de tous ses sentiments et comprendre combien il est absurde de les poursuivre. Quand la poursuite cesse, l'esprit est détendu, clair et comblé. Toutes sortes de sentiments ne cessent de naître et de passer, joie, colère, ennui, concupiscence, mais dès l'instant où vous cessez de courir après, vous pouvez les accepter pour ce qu'ils sont. Vous vivez dans l'instant présent, au lieu de fantasmer sur ce qui aurait pu être. La sérénité qui en résulte est si profonde que ceux qui passent leur vie dans la poursuite frénétique de sentiments plaisants ne peuvent guère l'imaginer. On peut les comparer à un homme qui passerait des décennies sur le rivage à étreindre certaines bonnes vagues et à essayer d'empêcher qu'elles ne se désintègrent, mais tenterait de repousser les mauvaises pour empêcher qu'elles ne s'approchent de lui. Il se tient sur la plage à longueur de journée, jusqu'à devenir fou devant la vanité de son exercice. Il finit par s'asseoir sur le sable et se contente de regarder le sac et le ressac des vagues. Que c'est paisible ! Cette idée est si étrangère à la culture libérale moderne que quand les mouvements occidentaux New Age ont découvert les intuitions bouddhistes, ils les ont traduites en termes libéraux, les mettant ainsi sans dessus-dessous. Les cultes New Age assurent souvent « Le bonheur ne dépend pas de conditions extérieures. Il dépend uniquement de ce que nous éprouvons au fond de nous. » Que les gens cessent de poursuivre des buts extérieurs comme la richesse et le statut et se mettent plutôt en phase avec leurs sentiments intimes. Ou, plus succinctement, « Le bonheur commence en soi. » C'est exactement ce que disent les biologistes, mais plus ou moins le contraire de ce que disait Bouddha. Bouddha convenait avec la biologie moderne et les mouvements New Age que le bonheur est indépendant des conditions extérieures. Son intuition majeure, et autrement plus profonde, est que le vrai bonheur est aussi indépendant de nos sentiments intérieurs. Plus nous attachons d'importance à nos sentiments, plus nous leur courons après, plus nous souffrons. Bouddha recommandait de cesser de poursuivre les objectifs extérieurs, mais aussi les sentiments intérieurs. Bref, les questionnaires relatifs au bien-être subjectif identifient notre bien-être à nos sentiments subjectifs et la poursuite du bonheur à la poursuite d'états émotionnels particuliers. Pour maintes philosophies et religions traditionnelles comme le bouddhisme, en revanche, la clé du bonheur est de connaître la vérité sur soi, de comprendre qui ou ce que l'on est. La plupart des gens s'identifient à tort à leurs sentiments, à leurs pensées, à leurs goûts et dégoûts. Quand ils sont fâchés, ils pensent « Je suis en colère. Voici ma colère. » En conséquence, ils passent leur vie à éviter certaines espèces de sentiments et à en poursuivre d'autres. Jamais ils ne se rendent compte qu'ils ne sont pas leurs sentiments et que la quête incessante de tel ou tel sentiment ou sensation les piège dans la misère. Si tel est le cas, c'est toute notre intelligence de l'histoire du bonheur qui pourrait bien être fourvoyée. Peut-être n'est-il pas si important que les attentes des gens soient comblées et qu'ils éprouvent des sensations plaisantes. La question essentielle est de savoir si les gens savent la vérité sur eux-mêmes. Quelle preuve avons-nous que les gens d'aujourd'hui comprennent cette vérité un tant soit peu mieux que les fourrageurs d'antan ou les paysans du Moyen-Âge? Voici quelques années à peine que les chercheurs se sont penchés sur l'histoire du bonheur, et nous n'en sommes qu'au stade des hypothèses initiales et de la quête de méthodes de recherche appropriées. Il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions rigides et clore un débat à peine amorcé. Ce qui importe, c'est de connaître autant d'approches que possible et de poser les bonnes questions. La plupart des livres d'histoire se concentrent sur les idées des grands penseurs, la bravoure des guerriers, la charité des saints et la créativité des artistes. Ils sont intarissables sur les structures sociales qui se tissent et s'effilochent, sur l'essor et la chute des empires, sur la découverte et la propagation des techniques. En revanche, ils n'ont rien à dire quant à l'influence de tout cela sur le bonheur et la souffrance des individus. C'est la plus grosse lacune de notre intelligence de l'histoire. Nous ferions bien de commencer à la combler.